vous invite à nous incliner dans la prière. Seigneur, c'est pour nous le temps de plonger dans ta parole, de l'écouter, de l'entendre, de nous laisser enseigner par toi. Et nous te demandons, Seigneur, que cette parole porte du fruit dans nos cœurs. Je te prie aussi pour moi-même et tous ceux qui ont la charge de l'annoncer, qu'ils soient trouvés fidèles à tes yeux, Seigneur. Nous te le demandons en ton nom. Amen. Nous terminons aujourd'hui notre série de prédications sur l'Épître aux Philippiens. Et sans plus attendre, je vous invite à lire le texte qui servira de support à notre méditation ce matin. C'est le chapitre 4, à compter du verset 4. Je vous le lis dans la version du Semeur. Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Je suis allé un peu trop vite, pardon. En lui disant votre reconnaissance, j'ai perdu ma ligne, voilà. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Je me suis réjoui comme d'une grâce venant du Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par deux fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons, et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À votre Dieu, à notre Dieu et Père, soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Saluez tous ceux qui, par leur union avec Jésus-Christ, appartiennent à Dieu. Les frères qui sont ici avec moi vous saluent. Tous ceux qui appartiennent à Dieu vous adressent leurs salutations, et en particulier ceux qui sont au service de l'Empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Jusqu'ici donc la lecture de la parole de Dieu. De quoi est-il question dans ce texte? J'ai commencé par relever quelques mots ou expressions relevés par Paul. Joie, amabilité, ne vous mettez pas en souci, paix, vérité, contentement, amour, respect, louange. Quel contraste avec notre actualité, où il n'est question que de protestations, de revendications, de violences, d'insultes, de menaces, voire d'insurrections. Ça fait bizarre, vous savez, quand vous préparez une méditation, vous avez les oreilles pleines des actualités et vous plongez dans ce texte. Et évidemment, vous vous posez beaucoup de questions. Ce que nous appelons la prédication textuelle suivie, ce que nous pratiquons dans cette Église, qui consiste à méditer pas seulement une thématique ou un extrait de livre, mais un livre en entier, a beaucoup d'avantages, à mon avis, entre autres, de nous obliger à méditer la parole de Dieu en entier, d'éviter d'être tenté d'éviter des sujets délicats ou de choisir des textes de circonstances. Il y a 15 jours, Jean-Lionel abordait la délicate question des conflits dans l'Église. Ce n'était pas parce qu'il y aurait aujourd'hui particulièrement un conflit dans notre Église, c'est simplement parce que Paul abordait ce thème dans son épître, et il vaut mieux aborder ce thème par avance plutôt que de devoir le traiter dans l'urgence. De même, ce matin, mon propos n'est pas de méditer le mouvement des Gilets jaunes, de le justifier ou de le combattre, mais de nous laisser interpeller par Paul sur notre comportement face à des situations difficiles qui, sans être identiques, laissent apparaître quand même quelques parallèles. De nombreux Français ne sont pas contents de leur situation économique et sociale, leurs fins de mois sont difficiles, et c'est une vérité. Paul, au moment où il écrit cette lettre, est emprisonné, empêché de poursuivre son ministère, de travailler pour subvenir à ses besoins lui-même, de rencontrer qui il veut. Il est dans l'attente de son procès. Pourtant, il nous dit au verset 10 qu'il se réjouit et qu'il a appris à s'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Lui aussi aurait des raisons de se plaindre, de protester de son innocence, d'être inquiet. Le contraste entre les tensions sociales et le climat de violence actuel d'une part, et la sérénité de Paul d'autre part, nous interpelle. Comment fait-il pour se réjouir dans sa prison, alors qu'il a été injustement accusé et qu'il a dû faire appel à l'empereur pour tenter d'obtenir justice? Comment peut-il se dire comblé au verset 8 quand il est privé de sa liberté d'action, de circulation, et qu'il risque d'être condamné à mort? J'ai choisi de partager ce texte en trois parties, les versets 4 à 9, où Paul exhorte les Philippiens, les versets 10 à 20, où Paul dit sa reconnaissance aux Philippiens pour l'aide reçue de leur part, et les trois derniers versets, les salutations finales. Vous savez qu'on appelle cet épître l'épître de la joie, et cet extrait commence par ce verset « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Ce n'est pas la première fois qu'il le dit dans l'Épître. Ma première réaction a été de me demander, est-ce qu'on choisit d'être joyeux? C'est bien beau de nous dire « soyez joyeux », mais est-ce que ça relève de notre volonté? Est-ce que c'est un choix? Est-ce qu'il suffit de le vouloir pour y parvenir? Et puis, qu'est-ce que ça signifie de se réjouir dans le Seigneur? David, dans son message sur le chapitre 3 du même livre, nous a donné quelques éléments de réponse il y a environ un mois. Je cite, « Dieu m'a pardonné, adopté, régénéré. Dieu m'accompagne. Cela ne changera jamais car Dieu et ses promesses ne changeront jamais. » Fin de citation. La joie est souvent une émotion éphémère que nous éprouvons à l'occasion de circonstances heureuses mais qui s'effacent avec le temps. La joie dont parle Paul est au contraire une conviction profonde que Dieu est maître de tout et qui est une certitude immuable. Dans Parole vivante, le verset 4 est traduit ainsi « Réjouissez-vous en tout temps d'être dans la main du Seigneur et de tout ce qu'il est pour vous. » Alors cela nous amène à nous poser une question. Qui est Dieu pour moi, pour vous? Je ne prétends pas que ma liste sera exhaustive, mais probablement que vous diriez comme moi, Dieu est mon créateur, Dieu est mon sauveur, Dieu est mon avocat auprès du Père. Dieu est mon conseiller, le Saint-Esprit en moi. Dieu est mon consolateur, celui qui règne sur toutes choses, le Tout-Puissant. Ceux qui étaient à l'étude biblique et qui ont étudié Ésaïe 40 ont eu une évocation de la grandeur incommensurable de Dieu. Et dans cette question qui suivra après du contentement, je me suis dit aussi, mais est-ce que je peux l'appeler mon Seigneur ? Me rappelant que Jésus avait fait cette remarque à certains de ceux qui se disaient ses disciples, Luc 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Bien sûr, on a envie de dire que Jésus est notre Seigneur, mais est-ce qu'on le conçoit vraiment comme tel et est-ce qu'on lui obéit ? Je voudrais aussi me rappeler l'exemple du prophète Habacuc, qui connaît Dieu, qui connaît sa sainteté, sa fidélité, sa justice, et qui ne comprend pas pourquoi Dieu laisse faire, voire même annonce, l'invasion de Jérusalem et la déportation du peuple à Babylone. À la fin du livre, parce qu'il connaît Dieu, il arrive à dire « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut ». La source de la joie est en Dieu, pas dans nos circonstances ou dans nos biens matériels. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole nous dit qu'il n'y a en lui aucune ombre de variation. Nous avons donc de solides raisons d'être joyeux. Je lirai un extrait de la première épître de Pierre dans la version Parole vivante encore, à compter du verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son amour sans limite, il a eu compassion de nous et nous a fait naître à une vie nouvelle. En nous associant à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Il nous a préparé un héritage que nul ne peut détruire ni corrompre, qui ne perdra ni sa beauté ni sa valeur. Il vous le réserve dans les cieux, pendant qu'il vous garde par sa puissance dont vous acceptez l'emprise avec foi pour le salut complet et définitif. Ce salut est déjà prêt, mais il ne sera dévoilé qu'à la fin des temps. Réjouissez-vous à cette pensée, même si actuellement vous êtes dans la tristesse, parce que vous devez endurer, pendant quelque temps encore, diverses épreuves et tentations. Elles éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or, qui pourtant disparaîtra un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Paul continue en disant « Que votre douceur soit connue de tous les hommes ». C'est sa deuxième recommandation. D'autres versets traduisent douceur par amabilité, bonté, modération. Et cela nous pose l'image de savoir quelle image nous renvoyons aux autres. Un esprit chagrin, une mine déconfite, quelqu'un qui se plaint, qui n'est jamais satisfait, est-ce que vous croyez que ça donne envie de connaître Dieu ? Paul nous invite à la douceur, l'amabilité, la charité, la clémence, la modération, la tolérance, la bénignité. En résumé, une humble bienveillance qui donne la patience de supporter l'injustice et les mauvais traitements sans désir de vengeance, sans amertume. Toutes ces qualités nous viennent de Dieu. Vous connaissez comme moi Galates 5, 22 qui dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Le Seigneur est proche, nous dit Paul, qui veut encourager les Philippiens et les inciter à prendre patience. Même si nous ne connaissons pas l'heure de son retour, nous savons que Jésus reviendra pour nous prendre avec lui dans l'éternité. Ne vous inquiétez de rien. Appuyez-vous sur une foi confiante dans le Seigneur. C'est Jésus lui-même qui nous rappelle dans Matthieu 6 que s'inquiéter, pour nous, ça ne sert à rien. Nos inquiétudes ne peuvent rien changer. Et il ne nous dit pas même allonger notre existence de quelques instants. Mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. C'est la version second 21 là que je vous lis. La reconnaissance, c'est l'antidote contre l'anxiété. Prier Dieu, ce n'est pas le presser pour nous exaucer, mais c'est lui dire nos besoins, notre confiance et notre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Ésaïe disait déjà, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Paul continue en nous disant, « Veillez sur vos pensées. » Dans la version du Semeur que j'ai lue, il est traduit « Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, digne d'être aimé, qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et digne de louange. » Paul nous invite à faire un tri, à filtrer nos pensées, à ne pas nous laisser emporter, influencer par toutes les idées qui circulent, car notre stabilité spirituelle, c'est le résultat de nos pensées. Et Paul dresse une liste assez détaillée des critères à appliquer pour faire le tri. Est-ce que c'est vrai? Quand on y pense, la notion de vérité a beaucoup changé, je trouve, ces dernières décennies. Quand on voulait dire « c'est vrai », on disait « c'est parole d'évangile ». Il y a une époque où on ne discutait pas. Parole d'évangile, ça ne se discute pas. Aujourd'hui, parole d'évangile, c'est un vieux truc. Ça a plus de 2000 ans. On entend souvent dire « à chacun sa vérité ». Le mathématicien que je suis ne peut pas voir les choses comme ça. C'est pas, on ne choisit pas d'avoir raison ou tort. Une proposition, elle est vraie ou elle est fausse. Il n'y a pas autrement. Même s'il y a des logiques plus compliquées que cela. La crédibilité d'une parole aujourd'hui ne vient plus nécessairement de la compétence ou de la sincérité de celui qui parle, mais du nombre de fois où elle est likée, on dit, relayée par les réseaux sociaux. Une chose qui est répétée 300 fois, elle devient vraie. Que d'emballements, de désordres causés par ce qu'on appelle les fake news, les fausses nouvelles. Il est d'autant plus important aujourd'hui de se poser la question de la vérité d'une information, d'une pensée, que n'importe qui peut dire n'importe quoi haut et fort aujourd'hui. Paul nous invite par exemple à prendre exemple sur les chrétiens de Bérée qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Est-ce que c'est juste de penser ce que je pense? Lorsque je prends position dans un débat, lorsque je prends une décision, est-ce que je ne vois les choses que de mon point de vue? Ou est-ce que je prends aussi en compte celui des autres? Est-ce que je suis juste dans ce que je dis, dans ce que je fais? Est-ce pur? Est-ce que j'agis sous la colère, par intérêt, par vengeance? Paul, par deux fois, va exhorter Timothée sur ce thème de la pureté. 1 Timothée 5, verset 22, n'impose pas trop vite les mains à quelqu'un. Autrement dit, ne t'associe pas trop vite à lui et éventuellement à ses péchés. Conserve-toi pur. Et dans la deuxième épître, au chapitre 2, verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. » Est-ce que mes pensées sont inspirées par l'amour? Est-ce qu'elles suscitent le respect, l'approbation? Voilà une question à nous poser souvent pour vérifier si nous sommes sur le bon chemin. Dieu approuve-t-il ma conduite, mes paroles? Vous vous souvenez probablement de plusieurs épisodes dans les évangiles où les disciples pressent Jésus d'intervenir ou de faire quelque chose pour lui. M'est revenu en mémoire, par exemple, l'autorisation de chasser des gêneurs, de gronder cette femme qui vient de répandre un parfum qui aurait pu aider des pauvres si on l'avait vendu. Ou Pierre qui sort son épée pour défendre Jésus et qui coupe l'oreille d'un soldat. Du point de vue des hommes, ça pouvait se comprendre. Et pourtant Jésus ne leur a pas donné raison, il ne les a pas laissés faire. Vaste programme que nous donne Paul, mais en même temps il nous dit « Soyez mes imitateurs, ne vous contentez pas d'écouter, mais regardez comment je fais. » Et vous imaginez le poids des paroles, d'abord du père spirituel de l'église de Philippe, c'est quand même lui qui les a amenés à la foi, on a toujours une oreille un peu particulière pour celui qui nous a amenés à la foi. Les circonstances que traverse Paul, il est en train de vivre et de mettre en pratique ce qu'il leur demande de faire. Et il leur fait cette promesse, « Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. » Sous-entendu, « comme il est avec moi. » Nous arrivons à présent à la deuxième partie de notre texte où Paul nous parle du contentement. Au verset 10, il remercie l'église de Philippe pour son soutien matériel, mais pas seulement. Il se réjouit pour différentes raisons. D'abord parce qu'empêché de travailler, il ne peut plus subvenir lui-même à ses besoins et l'argent collecté par les Philippiens est donc le bienvenu. Au verset 14, il dit « Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse ». Le mot « détresse », il est lourd de sens. Paul se réjouit aussi pour la fidélité des Philippiens, car nous apprenons au verset 16 que Paul a déjà reçu des dons à deux reprises lorsqu'il était à Thessalonique. Au verset 10, il se souvient que leur sollicitude, c'est-à-dire leur attention à son égard, a été constante, mais qu'elle n'avait pas toujours trouvé l'occasion de se manifester, car les Philippiens n'étaient pas riches. Mais Paul veut aussi expliquer que ce n'est pas seulement le soutien matériel qui le réjouit, c'est pas ça qui le réjouit le plus, mais ce qu'il traduit de l'état spirituel de l'église de Philippe et des liens profonds et solides qui unissent Paul à l'une des églises qu'il a fondées et qui tient une place particulière dans son cœur. Au verset 15, il dit « Aucune église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. » Vous voyez bien, il parle des deux. Vous seul l'avez fait. Ça aussi, c'est une petite parenthèse, je veux dire. On imagine que Paul, le grand Paul, celui qui a fondé toutes ces églises, mais comme on dirait aujourd'hui, il doit avoir un carnet d'adresses, mais phénoménal, des amis partout. Vous seul l'avez fait. Il est dans sa prison et voilà ce qu'il dit. Vous seul avait eu cet échange réciproque de dons matériels et spirituels. Ce qui m'intéresse, dit-il au verset 17, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soit porté à votre actif. Paul rappelle ici qu'il n'est pas intéressé, il n'en veut pas au bien des Philippiens. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, dit-il, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Et vous avez, comme moi, noté le verbe « apprendre ». Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. » Alors dans le dénuement, oui, on comprend qu'il a eu besoin d'apprendre. C'est pas facile de se satisfaire de manquer du nécessaire. Mais il a aussi appris à vivre dans l'abondance. Et ça aussi, je pense que ça nous interroge. Paul a voulu citer ces deux situations et il les a mises sur le même plan. Celui qui vit dans l'abondance a aussi des responsabilités quant à la façon de gérer cette abondance. C'est si facile de devenir indifférent aux autres quand tout va bien pour nous. Et comme c'est parfois tentant d'en vouloir encore plus. L'actualité plus ou moins récente nous l'a montré. Paul ne veut surtout pas donner aux Philippiens l'impression que leur effort de solidarité était inutile. Il est en train de leur dire, vous savez, moi je sais vivre avec très peu de choses, j'ai besoin de rien. Donc ils pourraient se dire, on s'est saigné à blanc un peu pour rien, quoi. C'est pas ça qu'il veut leur dire. Il leur dit, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Votre don a été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Lorsque vous avez des enfants qui suivent Dieu, et pour Paul, les différentes églises sont ses enfants spirituels, vous vous réjouissez quand vous voyez que vos enfants font plaisir à Dieu. C'est là la vraie joie de Paul. Et cette joie-là, même la prison ne peut pas lui enlever. En montrant concrètement leur amour pour Paul et le soutien de son ministère, les Philippiens ont avant tout fait une offrande à Dieu. Lorsque nous prenons soin les uns des autres, nous réjouissons nos frères et nos sœurs qui en bénéficient, mais nous réjouissons aussi Dieu. Cela change beaucoup de choses de voir les choses ainsi, car on peut être déçu par le manque de reconnaissance ou de gratitude de la part des hommes. Mais Dieu, lui, n'oublie aucune de nos bonnes actions. À ce moment-là, je me suis souvenu, quand j'étais enfant, chez moi, il y avait une crèche pour Noël, qui était posée tous les ans sur le buffet au même endroit. Et devant la crèche, il y avait un personnage un peu plus grand, comme ça, avec une petite fente pour qu'on puisse y mettre des pièces. Quand on mettait la pièce, il y a la tête de la statue qui faisait ça. Et il était écrit en dessous, « Merci, Jésus vous le rendra. » Dieu n'oublie pas tout ce que l'on fait pour lui. Dans Malachie déjà, au chapitre 3, verset 10, il est dit, et c'est Dieu qui parle, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Aujourd'hui, il n'y a plus d'offrande ou de sacrifice dans le temple. Mais Hébreux 13, verset 16 nous dit « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » J'ai appris à vivre dans le dénuement, mais aussi dans l'abondance. Si on reprend Philippiens 4, pardon, au verset 19, « Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins, il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » En effet, le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait, c'est Jésus-Christ, qui s'est donné en sacrifice pour nous réconcilier avec le Père. C'est notre principale source de joie, de contentement et de reconnaissance. Cela ne vient pas de nous, mais de Dieu. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est la conclusion de ce passage pour Paul. Que retiendrons-nous donc ? Pour nous réjouir dans toutes les circonstances, comme Paul nous y invite, il nous faut avoir une juste compréhension de qui est Dieu. Dieu est un Dieu saint, juste aimant, tout-puissant, souverain aussi. Un père qui se réjouit et fait la fête quand le fils prodigue revient à la maison. Mais un Dieu souverain qui n'a aucun compte à nous rendre. Et Christian, dans sa présidence, tu rappelais que Dieu a fait certaines promesses, mais il en est d'autres qu'il n'a pas faites. Il nous faut apprendre à faire confiance à Dieu, comme le prophète Habacuc, où il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Il nous faut veiller sur nos pensées, nous interroger sur ce qui est vrai, juste, pur, digne de respect, d'approbation. Apprendre à vivre dans le contentement, comme il le fait lui-même dans des circonstances pourtant très difficiles. Plutôt dans l'Épître au chapitre 2, au verset 14, il dit « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache, au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. » Ces paroles insistent sur l'image que nous renvoyons aux autres. Le contentement, c'est la marque de la confiance que nous plaçons en Dieu. Quel meilleur témoignage! Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, en sortant d'ici, l'actualité va nous environner de nouveau. Que ces paroles de Paul nous aident à discerner comment honorer Dieu chaque jour dans ces circonstances, dans une société qui manque de repères, et que Dieu nous aide à discerner ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, et qui mérite respect et louange. Amen.